Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans toute une vie, à la découverte de vies en forme de portraits sonores d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et les suivantes. Il était éditeur de ceux que l'on admire et qu'on redoute, de ceux dont on cherche l'intérêt et le voisinage, de ceux qu'on déteste ou qu'on regrette. Un personnage presque trop caricatural pour être vrai. Paul Tchaïkovski-Laurence, Paul, nous est raconté aujourd'hui par Julien Thèves et Marie-Laure Ciboulet entre deux piles de manuscrits.
Édition POL, 33 rue Saint-André-des-Arts, Paris 6e.
Il y avait toujours des vestes assez épaulées, des t-shirts Agnès B à manches longues, toujours.
Alors on entre dans une cour pavée du 18e siècle.
C'est pas mal de sport, donc j'ai le souvenir d'une silhouette assez massive en haut, sur des jambes assez fines.
C'est le gros pavé disjoint, et au fond de la cour, les éditions POL, qui sont là depuis plus de 20 ans.
Il était beau, il avait quelque chose de très juvénile qu'il a toujours eu.
Paul Tchaïkovski-Laurence.
Il avait une voix magnifique. Quand on décrochait le téléphone et que c'était Paul, il se passait quelque chose, quoi.
L'éditeur idéal.
Il avait quelque chose d'angélique, un petit visage blond, joli.
La voix, c'est la vie, hein. Il avait une voix un peu cuivrée, un peu... une voix assez sonore.
Alors, je sonne à l'interphone.
Comment dire ? Je sais pas comment il a eu cette voix.
Merci.
Parce que c'est une voix, vraiment une voix de baryton. Et une voix, bon, il y a sa façon de parler, cette sorte d'écoute de l'autre, de générosité envers les autres.
Un documentaire de Julien Thèves réalisé par Marie-Laure Ciboulet. Bonjour Frédéric Boyer.
Bonjour.
Nous sommes aujourd'hui avec vous au 33 rue Saint-André-des-Arts, au siège des éditions POL. C'était là que Paul Tchaïkovski-Laurence travaillait, il était là depuis plus de 20 ans. Et vous êtes aujourd'hui le patron des éditions POL. Vous lui avez succédé en 2018, après sa mort. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bureau, alors, si on devait le décrire?
C'est un assez grand bureau, assez retiré, puisqu'il donne sur la rue derrière, la rue Sugère. Et au mur, il y a quelques tableaux, œuvres, photos qui ont été offerts par des auteurs à Paul. Donc il y a un Buraglio avec un texte de Fourcade, il y a une photo de Marguerite Duras, il y a un petit montage de Robert Bobert sur le tailleur, il y a un dessin d'Atik Raimi qui reproduit l'origine du monde, une photo d'Edouard Levé, voilà, des photos de Suzanne Doppelt.
Comment est-ce que je suis devenu éditeur? Pourquoi?
Éditeur, un film de Paul Tchaïkovski-Laurence, 2017.
J'ai d'abord commencé par travailler chez les autres. C'était en février 1969, chez Christian Bourgoin. Il m'avait accueilli comme stagiaire. C'était mon premier travail après la fac de droit. C'était bien. Je traînais dans tous les bureaux, je regardais, j'écoutais, je lisais des manuscrits et même, je pouvais les emporter chez moi. Mais pourquoi avais-je si vite, en 2-3 mois de stage, décidé que je travaillerais coûte que coûte dans l'édition? Il y avait Christian, tellement séduisant, brillant, enthousiaste. Il aimait la littérature et les écrivains, et il avait tout organisé autour de cet amour, et pour cet amour. Et un jour de novembre 1970, je suis entré au service littéraire de Flammarion. Ce furent de belles années. Après quelques temps, j'ai proposé la création d'une collection de littérature un peu aventureuse. Henri Flammarion m'aimait bien. Alors j'ai publié. J'ai publié vraiment, et au bout d'un moment, il y a même eu mon nom sur les livres. À l'intérieur des livres.
Chez Flammarion, une nouvelle collection qui porte le titre de texte.
Le texte et la marge.
A des propos assez ambitieux et surtout extrêmement intéressants.
18 février 1972.
Nous avons donc demandé à l'animateur de cette collection, qui est Monsieur Paul Tchaïkovski-Laurence, de venir nous en parler. Comment est née cette collection ?
Eh bien, cette collection est née parce que certains auteurs se trouvaient publiés en ordre dispersé, certains auteurs difficiles ou qui se livraient à certaines recherches littéraires, et il nous a paru utile de les regrouper sous une même couverture. Le mot texte nous permet de porter attention à tous les textes, c'est-à-dire à la poésie, au récit, au roman, sans distinction de genre.
Des romans, des monologues, des élégies.
C'est en somme une littérature un peu en marge que vous allez entreprendre de faire connaître.
Des autofictions, des drames et des tragédies, des uchronies, des récits, des comédies, des autobiographies, des satires, des odes, des témoignages, des aphorismes, des confessions, des fables, des enquêtes, des contes, des poèmes, des paroles, des voix, des histoires, des secrets, des mensonges.
Qu'avez-vous fait jusqu'à maintenant ?
Démarche, 26 février 1983.
Écoutez, jusqu'à présent, je m'étais occupé de la collection texte chez Flammarion jusqu'en 77. Et puis, ensuite, j'avais créé une collection chez Hachette qui s'appelait POL. Je pense que j'ai une manière toujours aussi empirique de choisir mes livres, enfin, les livres que je publie. Je dirais que je m'efforce de publier les livres que j'aurais aimé avoir écrit.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce bureau ? Il y a une pile de manuscrits.
Alors, il y a les piles de manuscrits. Alors, Paul en avait beaucoup plus parce qu'il les met entassés comme ça.
Là, il y a les manuscrits, les manuscrits refusés qui vont être renvoyés.
Ah, oui. Là, on a les manuscrits qui sont arrivés ce matin, là-bas.
Une petite pile.
Ça,
une dizaine
de manuscrits. Non, mais il peut en arriver aussi après dans la journée.
Celui-là, vous l'avez publié chez Hachette. Hachette Péouel, à l'époque.
Du jour au lendemain, 6 mai 1995.
C'est le livre de Georges Perec, La vie, mode d'emploi.
Bon, ce très 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 grand écrivain m'a fait une confiance absolue, c'est-à-dire qu'il m'a confié ce livre qui était la somme de tout ce qu'il avait pu imaginer, créer, et qui était aussi le point de départ de tout ce qui devait suivre. Et le jour où le livre est arrivé, c'était le 4 septembre 1978, on s'est donné rendez-vous à la Closerie des Lilas et j'ai apporté deux exemplaires, un pour lui tout de suite, puis bon, avec une arrière-pensée, un pour moi. Et il me l'a dédicacé et il a mis à l'avenir de Paul et de POL.
Il y a eu la douleur en 85, je crois. C'est une histoire extraordinaire. Marguerite Duras voulait me donner un livre. Elle m'avait d'abord donné à rééditer un livre d'article qui s'appelle Outside. Bon, j'ai réédité ce livre. Et puis après, elle a voulu donner une suite à ce livre, réunir d'autres articles.
Tam Tam, etc. 7 mai 2003.
Et c'est en fouillant dans ses papiers qu'elle est tombée sur un cahier dans lequel était écrit ce texte, La douleur, ce texte extraordinaire, et qu'elle avait complètement oublié. Qu'elle avait écrit comme ça sous le coup de l'émotion du retour de Robert Antelme, son mari, du retour de camp de concentration. Elle m'a appelé, elle m'a dit viens voir, j'ai trouvé quelque chose, et elle m'a montré ce cahier, j'étais extraordinaire. C'était un cahier qui s'effritait déjà, enfin tellement c'était du mauvais papier, un cahier de brouillon comme on avait dans les écoles. Elle me l'a donné, j'avais l'impression de tenir le Saint-Sacrement. Je suis rentré au bureau avec ça, je l'ai photocopié à toute vitesse. J'ai laissé l'exemplaire original au bureau et j'ai emporté la photocopie chez moi. Comme ça, j'étais sûr que s'il y avait un incendie dans la nuit au bureau ou chez moi, il y aurait toujours un exemplaire qui resterait.
D'abord, il y avait ces livres intrigants, remarqués à l'adolescence, avec ce nom mystérieux, Paul, comme une cible ou une ville étrangère. Jeune auteur, j'adressais toujours mes manuscrits à POL. Parfois, je me déplaçais, ça revenait moins cher qu'un envoi par la poste. Il m'est arrivé de recevoir des lettres de Monsieur Paul, de Paul Otchakovsky-Laurence. Avec Guillaume Dustan et tous les autres, la bande de POL était la plus désirable, c'est là qu'on avait envie de publier. Après, je l'ai croisé dans une fête, dans la file d'attente d'un théâtre. On n'osait pas lui parler, il se protégeait. Il opposait une forme de silence, celle d'un éditeur habitué aux sollicitations des gens qui écrivent. Et puis il y a les livres POL autour de nous.
Alors là,
Si,
sur les étagères, normalement, il y a un semblant de collection entière de tous les livres, mais il en manque toujours quelques-uns.
C'est-à-dire qu'il y aurait un exemplaire de chaque livre publié depuis 1983 chez Paul.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, vous me donnez l'occasion de le dire, parce que je ne l'ai jamais dit, je n'ai jamais formulé, mais j'ai repris ce bureau tel quel, je ne l'ai pas changé.
Et puis un jour, l'année venait à peine de commencer. Ce fut l'accident, le choc. Les hommages étaient si grands. nous avions perdu bien plus qu'un éditeur. L'âme d'une certaine époque, l'animateur d'une effervescence culturelle qui allait bien au-delà de l'écriture et s'étendait au cinéma, à la scène. Il reste ses livres à la couverture blanche, rugueux au toucher, simple et attirant. Les livres POL.
Plus ou moins explicitement,
Emmanuel Carrère,
au fond, quand on commençait à publier chez Paul,
écrivain, scénariste et réalisateur,
on se disait, bon, peut-être que je vais faire ma vie d'écrivain là. Ce qui avait quelque chose de rare, encore plus maintenant, ou si vous voulez, dans les maisons maintenant. D'édition, il y a une espèce de turnover perpétuel. Alors que là, moi j'ai passé 35 ans quoi, dans cette maison, avec un interlocuteur qui est devenu un autre maintenant, Frédéric Boyer, avec une personne qui est Jean-Paul Hirsch, le directeur commercial de la maison, qui est un homme de l'ombre et qui ne veut sans doute pas parler dans votre émission, mais qui est sans doute la personne la plus importante de cette maison, qui en assure la continuité, qui fait partie de son identité de façon très forte. Et au fond, je crois qu'à la fois, il y a peu d'auteurs de chez POL qui... si, il y en a sans doute, à un moment, on a arrêté, Paul a dû leur refuser un manuscrit, et ça a dû se... Mais somme toute, très peu. Et je pense qu'il y a très peu d'auteurs qui sont partis, même attirés par les promesses, les sirènes d'autres maisons d'édition. Je sais que... Moi, j'ai jamais eu la moindre tentation de partir.
On vous a effectivement démarché, peut-être d'autres éditeurs.
Un petit peu, oui. Ce qui est d'ailleurs très très flatteur. On est content. On est d'autant plus content d'être fidèle si on se fait un peu draguer, quoi. Non. J'ai jamais eu envie d'aller ailleurs. Enfin, si, je l'ai fait pour le livre, la biographie de Dick. Comme c'était une biographie, que ça réclamait beaucoup de temps, beaucoup même de frais. Enfin, en gros, la maison POL à ce moment-là était pas à son plus prospère, et c'était un livre cher à faire. Mais régulièrement, il me disait que ça le consternait que j'ai publié ce livre au Seuil, que évidemment qu'il trouvait que c'était mon meilleur livre pour la simple raison qu'il ne l'avait pas. Non, Paul était extrêmement jaloux et possessif. Enfin, c'était beau. Comme façon de faire, c'était assez dans la lignée des éditions de Minuit. Je pense que Paul avait une très très grande admiration pour Jérôme Lindon. Mais par ailleurs, il avait une espèce de... Il adorait la diversité de ce qu'il publiait. C'était pas le cas de Lindon. Lindon, depuis qu'il avait fait le coup du nouveau roman, il avait toujours envie de refaire ça, c'est-à-dire de créer une espèce d'école, de faire qu'il y ait un style des éditions de Minuit. À quoi il est arrivé, d'une certaine manière, si vous voulez. Au fond, il y a une espèce de descendance de Jean Echenoz et Jean-Philippe Toussaint, on peut dire, aux éditions de Minuit. Paul, ça partait dans tous les sens. Enfin, non. Le point commun, c'était son goût. C'était, alors là, pareil que pour Lindon. Paul, la chose qu'il détestait, c'était les comités de lecture. Il disait, les comités de lecture, ça traduit le goût moyen. Non. Il disait, moi, c'est mon goût. Il est peut-être mauvais, mais je l'assume. Et ce goût était très, très singulier et très imprévisible.
Tant de manuscrits, tous ces manuscrits, mais toujours le désir. Il y a la recherche, l'attente, la rencontre, la vérité, la reconnaissance.
Olivier Charneux, tu es un écrivain, tu as publié de nombreux livres chez Stock, chez Grasset, au Seuil, chez Robert Laffont, mais tu n'as jamais publié de livres aux éditions POL. Et pourtant, je crois que quand tu étais un jeune auteur, à la fin des années 80, début des années 90, tu avais très envie d'être publié aux éditions POL. Qu'est-ce que ces éditions, cette maison d'édition, représentait pour toi ?
Elle représentait ce qui se passait de nouveau, de novateur dans la littérature. Et surtout, il y avait Marguerite Duras qui était pour moi le point de mire de cette jeune maison d'édition. Je sentais une ouverture, moi, qui ne venait absolument pas de ce milieu. Je pensais trouver écho dans cette maison et j'envoie mon premier manuscrit par la poste, qui était une longue nouvelle de 70 pages qui s'intitulait « Par les fenêtres », qui est un totalement inédit. Et je ne l'ai envoyé qu'à deux éditeurs, POL et les éditions de Minuit.
Quelle réponse tu as obtenue de POL ?
Eh bien, un refus argumenté, mais très enthousiasmant pour moi, me faisant part que c'était un texte très personnel, que j'étais curieux des autres, il me demandait de le tenir au courant.
Je choisis, je décide, j'ai tout pouvoir. Je peux renvoyer au silence, donner la parole au contraire. Je peux abuser, je peux me venger, je peux être clément, je peux être nul, je peux me tromper, Je peux être envieux, jaloux et méprisant.
Paul tenait absolument à ouvrir les enveloppes des manuscrits lui-même. Et, je sais pas, renifler, c'était un truc, je sais pas, il était quand même chaque jour impatient de voir ce qui arrivait par la poste. Et d'ailleurs, il avait une préférence pour les manuscrits qui arrivaient par la poste. Vous savez, il y a toujours des gens qui croient en rapport un peu paranoïaque, qui sont persuadés que dans l'édition, les choses se font uniquement par piston, par relation. Paul incarnait vraiment le contraire. C'est-à-dire, je pense que, une recommandation était un très lourd handicap pour lui.
Effectivement, les manuscrits arrivaient tous les matins, sais peut-être 10, 15, 20.
Et Paul, il s'asseyait dans son bureau et il commençait à ouvrir les trucs. Alors évidemment, il était comme tous les éditeurs, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de manuscrits où il lisait 10, 20 pages et il se disait « Bon, c'est pas pour moi. »
Parmi tous ces manuscrits, j'ai entendu quelque chose que je n'avais encore jamais entendu. J'ai entendu quelque chose qui a surgi et qui m'avait été inaudible jusqu'à ce jour. J'ai entendu quelque chose que je suis le seul à pouvoir entendre. Oui, le seul. C'était pour moi de tout temps. J'ai entendu le secret, le silence, le mutisme, ce qui aveugle, ce qui parle enfin.
Notre relation va durer 6 ans, de 1988 à 1994. Elle fut parfois mouvementée, mais surtout, il m'a reçu une fois. Alors, c'était avec mon deuxième manuscrit, et je trouve un homme à la fois charmant, faussement timide, envahi de manuscrits derrière son bureau, et qui, tout d'un coup, est très à l'aise face à moi, et me donne en souriant une formidable leçon littéraire. Et il m'a refusé encore le deuxième manuscrit, et le manuscrit que je venais de lui remettre a été transformé tout de suite en un récit lié au sida, et c'est avec ce manuscrit qu'il va y avoir quelque chose d'assez violent qui va se passer avec POL. Il met, comme tu le sais, beaucoup de temps à répondre. Sauf que là, il y avait eu beaucoup de signes avec moi. Il m'avait reçu. Et attendre 6 mois, et avec cette épidémie du sida, qui à cette époque n'était pas soignable...
Qui imposait une certaine urgence.
J'étais très très en colère. Et je prends mon téléphone et je l'appelle. Je demande à lui parler. Et donc, sa secrétaire me le passe. Et il me répond d'une façon très sèche. « Monsieur, vous me dérangez. » Je dis... Puisque je vous dérange, cher monsieur, j'arrive tout de suite et nous allons nous parler. Je raccroche, je déboule Villa d'Alésia. Sa secrétaire me dit qu'il est en rendez-vous. Je lui dis, mais c'est pas grave, moi je rentre dans son bureau s'il ne vient pas. Il arrive dans le couloir et là, je le prends par le collet et je lui dis, monsieur, vous ne me parlez pas ainsi. Et si je vous dérange, vous n'aviez qu'à pas me répondre. Et puis, c'est peut-être mes écrits qui vous dérangent. Je lui ai lâché le col, parce que les choses commençaient à s'envenimer. Je me suis calmé, j'ai repris mes esprits. J'étais très jeune. Je me suis dit, c'est la fin pour moi de l'édition. Tout le monde va savoir cette histoire. C'est horrible. Je l'avais pris au collet, quand même, à sa chemise, quoi. Et je le voyais, tout tremblotant, avec les bras ballants. Et il est tout blanc, déjà d'habitude. Mais là, il est encore plus blanc que sa chemise.
Pratiquement toujours la première réaction à un livre que je lui avais donné, il m'appelait au téléphone. Je sais que si je lui donnais le manuscrit à 3h de l'après-midi, il allait m'appeler à 3h du matin.
Il le lisait immédiatement.
Ouais. Ça, c'est sûr qu'il y avait quelque chose de magnifique dans cette espèce d'impatience, d'appétit. Et ça vaut pas seulement pour moi. Hein. Je pense que c'est le cas de la plupart des auteurs qui publiaient, sinon tous, parce que sinon ils les auraient pas publiés. C'est ce désir. On sentait ce qu'on écrivait totalement désiré. Et je dois dire un truc, je pense pas me tromper en disant qu'il y avait chez lui ce truc très rare, mais qu'a aussi Frédéric Boyer, c'est que les auteurs qui vendaient peu de livres étaient traités avec la même impatience, le même désir, les mêmes égards que ceux dont les ventes faisaient un peu tourner la maison.
Quelques jours plus tard, il m'a écrit cette lettre, que j'ai gardée bien évidemment. Au moment de vous retourner votre manuscrit, car évidemment il l'a refusé une nouvelle fois, je tenais à vous dire que je regrette beaucoup l'incident qui nous a opposés lors de votre dernier passage Villa d'Alésia. Je sais suffisamment être désagréable au téléphone avec qui j'ai envie de l'être pour être sûr de ne pas avoir voulu vous offenser lorsque vous m'aviez appelé. Quoi qu'il en soit, puisque vous avez eu cette impression, je vous prie d'accepter mes excuses. Alors là, du coup, il y va dans sa critique de Dully qui s'intitulait maintenant « Le veilleur est plus l'inaccompli ». Le veilleur est un livre ambigu, parce que s'y trouve encore à côté d'une voix qui apparaît de plus en plus nettement comme la vôtre, les scories d'influence, Marguerite Duras notamment et surtout, qui au niveau où vous les prenez, ne vous font aucun bien.
Emmanuel Carrère, il n'y a pas des auteurs de la maison qui vous disent « Ah ben il m'a pas répondu, j'attends sa réponse ». Les auteurs sont toujours un peu insatisfaits de leurs éditeurs. Est-ce qu'il y avait quand même un peu des failles chez cet éditeur idéal ?
Attendez, le coup des failles, il y a un truc extraordinaire. C'est que Paul a réalisé deux films. Un qui s'appelle Sablé sur Sarthe, Sarthe qui est sur un épisode très douloureux de son enfance. Et l'autre qui s'appelle Éditeur et qui est donc une espèce de réflexion très libre, très associative sur son métier. Dans ce film Éditeur, il n'y a pas du tout d'interview des auteurs, importants de sa maison d'édition. La seule personne qu'il est allé interviewer pour parler du rapport entre auteur et éditeur, c'est un auteur qui s'appelle Michel Manière, dont il a publié plusieurs livres, et puis qu'à un moment, il a cessé de publier, comme ça arrivait quand même. Mais surtout, Michel Manière, ce qu'il a à dire, c'est que il lui en veut. Au fond, il lui a envoyé un manuscrit qu'il a mis 6 mois ou 1 an à répondre, une lettre qu'il a trouvée désinvolte, truc comme ça. Ça veut dire que la seule personne à qui Paul a demandé de témoigner de son activité d'éditeur, c'est à peu près le seul auteur qu'il a choisi parce qu'il pouvait dire du mal de lui. C'est particulier comme façon de... Alors bien sûr, non, forcément, il y a des auteurs qui devaient être déçus. C'est inimaginable autrement.
Pourquoi les uns écrivent? Pourquoi d'autres les éditent? Qu'est-ce qui pousse des écrivains à confier le plus cher d'eux-mêmes, le plus intime, à des éditeurs qui vont s'en emparer au prétexte de le diffuser, de le faire connaître? Oui, s'en emparer. Pourquoi certains éditeurs mettent-ils leur nom sur les couvertures des livres qu'ils publient? Quel rapport trouble entretiennent-ils avec ceux-ci et avec leurs auteurs? Qu'est-ce que c'est un éditeur? Pourquoi cette activité économiquement aberrante? Est-ce que c'est un écrivain raté et jaloux en plus? Un philanthrope, un vicieux, un pervers, un idiot? Un enfant qui n'a pas grandi? Pourquoi est-ce que je suis devenu éditeur? Pour le pouvoir que cela me donne sur les autres, sur ceux que je n'ai pas su être? Pour attacher mon nom à plus grand que moi?
Bonjour Jean Frémont.
Bonjour.
Nous sommes avec vous aujourd'hui à la Galerie Le Long, à Paris, 8e arrondissement. Vous êtes galeriste, marchand d'art et écrivain. Et vous étiez un ami de jeunesse. Vous avez connu Paul Tchaïkovski-Laurence dans les années 60. Il me semble qu'il arrivait de Sablé-sur-Sarthe. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux?
On s'est rencontrés en 1964 sur les bancs de la faculté de droit. Rue d'Assas, on s'est trouvé assis par hasard côte à côte dans l'amphithéâtre le premier jour. Et à cette époque-là, je publiais une petite revue de poésie, mal foutue, un petit truc fait par des adolescents, quoi. Et je distribuais ça dans les librairies du Quartier Latin. Donc j'avais une pile à côté de moi. C'est là-dessus que la discussion s'est engagée. Au fond, il était curieux, il m'a demandé ce que c'était, on s'est mis à bavarder. Et littéralement, on s'est plus quitté. Nous allions ensemble dans les librairies pour distribuer la revue. Nous parlions de littérature et des gens que nous connaissions. C'était une relation de jeunes gens, tout à fait inexpérimentés en tout, mais prêts à découvrir tout. Il a écrit un roman qu'il m'a donné. Je ne sais pas si je l'ai encore ou si je l'ai perdu. Je ne saurais pas en tout cas savoir où c'est, à l'époque, à cette époque-là. Et qui était, une chose juvénile, comme ce que je faisais moi aussi, des choses qui n'ont jamais paru.
Vous avez publié des livres toute votre vie, et lui n'a pas...
Il n'a pas continué, non, il n'a pas continué. Après, moi j'ai fait un doctorat, et lui a fait la préparation au métier d'avocat, donc on n'était plus ensemble, mais on se voyait tout le temps quand même. On ne s'est jamais quitté depuis, jusqu'à ce malheureux accident. Je veux dire, on a toujours été vraiment proches et liés. Oui, c'était une longue... amitié, c'était vivant. Paul avait quelque chose de juvénile, et un peu comme ça, oui, prime sautier, léger. Mais léger dans un très bon sens, dans le meilleur sens du terme.
Vous lui avez fait découvrir, je crois, un petit peu quand même la littérature contemporaine, la littérature de l'époque, parce que lui ne connaissait pas grand-chose à la littérature en arrivant à Paris, sauf peut-être les classiques qu'il avait lus.
Il avait lu Proust, je m'en souviens, mieux que moi à l'époque. Moi, à peine encore, je l'ai lu plus tard. Ce que je sais, c'est que moi, il y a des gens, en effet, dont je parlais abondamment. Beckett, par exemple, voilà, c'était une passion. Et Musil, peut-être déjà, enfin, voilà. Oui, on avait beaucoup de choses à échanger parce qu'on n'avait pas exactement les mêmes arrière-plans. Et puis, on parlait beaucoup de l'édition, au fond, de faire des choses dans l'édition. Moi, c'était un peu mon but dans la vie. Et lui, je pense sincèrement que jusqu'à cette rencontre, il n'y avait pas vraiment pensé. Mais à partir de là, il n'a plus pensé qu'à ça, en gros. Et nous allions aussi voir des expositions de peinture, déjà. Je veux dire, le secteur dans lequel je me trouve aujourd'hui, depuis 48 ans, je crois, déjà, maintenant, était aussi présent dans ma vie. Et c'est quelque chose qui l'intéressait aussi. Son père était peintre.
Je ne suis pas né à Sablé. Je suis né dans le Midi où mes parents s'étaient réfugiés pendant la guerre.
Sablé-sur-Sarthe, Sarthe, un film de Paul Tchaïkovski-Laurence, 2007.
Je suis arrivé à Sablé après la mort de mon père, avec ma mère et mon frère aîné Henri, fin 1945 ou début 1946. Une cousine de ma mère, qui était aussi ma marraine, elle-même éprouvée par la mort récente de son mari, lui avait proposé de l'accueillir et ses enfants pour un moment. La cousine de ma mère, on l'appelait Madame Laurence, Berthe, tante Berthe, et moi je l'appellerai bientôt mamie, était bien sûr venue nous chercher au train tous les trois. Et puis ma mère est tombée gravement malade. La tuberculose, c'était une rechute, et à cette époque on avait peu de chances de survivre à une rechute. Alors il a été convenu que sa cousine m'adopte. Quant à Henri, on le placerait dans un orphelinat, à Sallanches, en Haute-Savoie, pour commencer. Et puis, quand ma mère est sortie de sanatorium, il l'a rejointe, tandis que je restais avec Berthe Laurence, ma mère adoptive. Quand est-ce que mon adoption a été décidée? Très tôt, il me semble, très vite. Mais c'est confus. Je ne comprends pas tout, les dates, les faits, le rôle des uns et des autres. On ne m'a pas dit grand-chose non plus. Je suis resté un peu plus de 17 ans à Sablé, le temps d'y grandir, d'y suivre une médiocre scolarité, le temps d'y être un enfant, un adolescent, et puis j'en suis parti après avoir raté mon premier bac pour aller à Paris où j'ai fait ma vie.
Jean Frémond, oui. Quelles étaient ses principales qualités à Paul Tchaïkovski-Laurence ?
Principale qualité comme personne, un type extraordinairement gentil, vraiment. Léger, je l'ai dit tout à l'heure, et gentil. Mais qualité d'éditeur, libre. Constamment, je ne l'ai jamais vu raisonner autrement que est-ce que j'aime ce texte ou pas. Et il peut l'aimer pour toutes sortes de raisons différentes. La principale était que ça le surprenne. Quand quelque chose le surprenait, c'était déjà un très bon signe. Je me souviens de ça, ça m'a frappé quand, à propos d'un livre en particulier qui lui avait plu, mais qui lui paraissait très étrange et très différent de tout ce qu'il avait aimé jusqu'à présent. Donc il savait pas pourquoi il aimait ça. Il l'a fait lire autour de lui à ses collaborateurs. Et tous ses collaborateurs lui ont dit « C'est très bien, mais c'est pas du tout pour nous. » Il a dit « Raison de plus pour le faire. »
Marc Cholodenko, mon premier écrivain. Enfin, j'en tenais un. C'est là, dans ce café de la place Saint-Sulpice, que nous nous étions donné rendez-vous. C'est le premier que j'ai publié, j'allais dire, sous mon nom. C'est avoué où j'en suis resté, encore et toujours. Tu vois, Marc, j'avoue enfin, il m'en aura fallu du temps. Je me suis servi de toi de manière éhontée, tout comme je me sers encore de toi pour ce film, comme je ne cesse de me servir de celles et de ceux que je publie, et aussi de toutes celles et de tous ceux qui m'adressent des manuscrits, même si je ne les publie pas. Je pense qu'ils m'ont sauvé la vie, comme toi, qu'ils sauvent ma vie sans arrêt, comme toi. Mais je pressens aussi que j'avais à sauver ma vie, de toute façon, comme chacun.
Emmanuel Carrère, j'ai imprimé une liste de noms,
ouais.
Avec les noms d'auteurs. que je voilà que je vous passe et peut-être dans cette liste vous pouvez la lire et réagir.
Qui est-ce que je vois? Marc Chlodenko, par exemple, ça fait partie des auteurs les plus anciens de chez POL et un des auteurs qui m'a fait, dans une moindre mesure que Pérec, mais aussi qui m'ont fait venir chez POL, quoi, parce que c'était, il y a eu Dustan, ouais, Dustan, c'était. Ça a été un auteur important. Il y a eu Danet. Danet a créé chez POL une revue qui s'appelle Trafic, qui est une magnifique revue de cinéma qui exprimait vraiment le goût de Paul en matière de cinéma. Qui est-ce que je peux aller chercher?
Pierre Alféri, un des meilleurs poètes de sa génération et puis de tous les temps.
Denis Cooper, un des rares auteurs traduits. Mais c'est parce que c'est vraiment tellement un auteur de la maison et traduit par des auteurs de la maison et tout ça. Donc
il vit en France.
Ça passe. C'est possible.
Santiago Amigorena, qui est un auteur que je suis, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son parcours.
Il a fait lancer deux collections de littérature étrangère, l'une anglaise, l'autre italienne, avec des directeurs de collection qui étaient vraiment des grands connaisseurs, des gens de très grande qualité. Simplement, comme il lisait ni l'anglais ni l'italien, à un moment il lisait les traductions, et puis il s'apercevait que ça lui plaisait pas. Et donc, il publiait pas. Donc au bout d'un moment, il s'est quand même rendu compte que c'était pas la peine de faire de la littérature étrangère, dans la mesure où il ne pouvait pas exercer de façon totale et son goût.
Nathalie Azoulay, qui est venue après moi, qui est avec qui on partage aussi certains thèmes, pour dire ce mot.
Cadio, Olivier Cadio.
Un auteur de poésie très important.
Ouais.
Pierre Bailly, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses livres. Paul était très sensible aussi aux transfuges de classe. Et devenir écrivain, c'est être un transfuge de classe.
Ah, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup. Là, vraiment un auteur que Paul a accompagné tout au long de sa longue carrière, même avant que ça soit P.E.L., c'est Charles Juliet, qui est vraiment à la fois un poète, l'auteur d'un admirable journal. Par exemple, typique, Paul a publié le premier volume du journal d'un inconnu de Charles Juliet. C'était un mec totalement inconnu. C'est assez rare qu'on fasse ça. Éventuellement, on publie le journal de quelqu'un qui a déjà acquis une certaine notoriété à d'autres titres. À ce moment-là, on va... Non, Paul, il a impavidement commencé à publier le journal de Charles Juliet.
Il s'est pas trompé. Il a découvert un auteur majeur, là aussi.
Très important. Alors là, qui fait vraiment partie de l'identité de la maison.
Paul avait entendu dans ce journal la voix d'un auteur.
Vous avez raison de parler de voix. Je pense que c'était vraiment entendre une voix qui l'intéressait et aider cette voix à se déployer.
Renaud Camus, une plaie ouverte hein, quand même, parce que Renaud Camus, justement, dans cette littérature de l'inquiétude, de la non-binarité, du dérangement, etc., était évidemment un pionnier, mais c'était un type exécrable.
Marie Dariussec, écrivaine.
Mais Paul avait aussi un côté un petit peu... Paul aimait tellement chercher les limites qu'il avait un petit côté maso parfois.
Ça l'excitait,
je crois. Ouais, ouais. Et ce combat l'excitait aussi. Qui d'autre? Édouard Levé. Édouard Levé, que j'ai assez bien connu, qui s'est suicidé juste après l'envoi du manuscrit qui s'appelle Suicide. Et Paul m'avait dit, j'ai rien vu.
Juste après l'envoi.
Ouais. Deux jours après l'envoi, je crois, ouais. Après, Paul, moi, je sais aussi qu'il est allé sauver des gens du suicide. Paul, c'était quelqu'un que vous pouviez... Moi, je ne l'ai jamais fait, mais je sais que des gens l'appelaient à 2h du matin en détresse. Et il y allait. Il y allait, bien sûr. Ça faisait partie de son boulot. Les écrivaines, on est vite un peu fragilisés, un peu... Et Édouard Levé, ça a été un... Pour lui, ça a été un échec pour ça. Enfin, il s'en est horriblement voulu de ne pas avoir cru ce qu'il lisait, d'une certaine façon. Ryoko Sekiguchi, une écrivaine japonaise, qui est formidable aussi...
L'annonce.
Jacques Roubaud, Jean Rollin, Jean Saint, copain. Nina Yerjekov, que j'aime beaucoup.
Oui.
L'ami Asiadé, Hélène Simard. Oui, tous ces gens. Oui, on est bien entourés, quoi.
Je t'attendais depuis si longtemps.
William Shakespeare, c'est drôle.
Comme je suis heureux de te voir tel que tu es, dans ta vérité, dans notre vérité.
Et Ovid, bien sûr, puisque on est plusieurs chez POL à traduire comme ça des grands classiques.
Te lire enfin m'a remué, bouleversé, déchiré. Je ne serai jamais plus le même. J'aurais tant voulu pouvoir écrire ton livre. J'aurais tant aimé être l'écrivain qui a écrit ce livre. Mais c'est égal. J'ai vécu. Je vis par ta voix, ses modulations, le souffle derrière. Donne-moi tous tes livres, tous. Je n'en aurais jamais fini de te lire et de parler par toi, grâce à toi.
J'ai publié tous mes livres aux éditions Péol. Les rares, très rares excursions que j'ai faites dans d'autres maisons d'édition, je pense en particulier aux éditions des femmes, Paul, ça le mettait en transe. Est-ce qu'il voulait publier, comme il disait, toute l'œuvre? Il avait ce mot, toujours l'œuvre. Moi, ça me paraissait, c'était un très grand mot, œuvre. Moi, je publiais des livres et j'aime bien parler de mon travail d'ailleurs. Mais lui, tout de suite, il disait, je publie pas un livre, je publie un écrivain. C'était plutôt du désir, de la gourmandise, enfin de la curiosité. Et c'était très aimant. C'était pas agressif.
Vous avez publié « Truisme » en 1996, avec le succès que l'on sait. Votre manuscrit avait été accepté dans d'autres maisons d'édition, mais vous avez fait le choix déterminé des éditions POL. Comment s'est passée la rencontre ?
Il y a d'abord eu un coup de fil. Je me rappelle très bien où j'étais. J'étais chez ma grand-mère, au Pays Basque, à Machi. Et il m'a dit, voilà, j'aime beaucoup, « Truisme », j'aime beaucoup. Mais je ne publie jamais sur un coup de tête, donc il faut que je le relise et je vous rappelle dans quelques jours. Et dans l'intervalle, d'autres éditeurs m'ont appelé. Donc. Et quand les autres éditeurs ont appelé, j'ai rappelé. Et j'étais tombée sur Jean-Paul Hirsch. Jean-Paul Hirsch, c'est l'autre de POL. Jean-Paul m'a dit, Paul est dans la Drôme, il lit des manuscrits. C'est une chose qui se répétait tous les ans. Paul partait lire des manuscrits dans la Drôme, dans la maison qu'il avait là-bas. Et Jean-Paul m'a dit, venez, venez, il faut qu'on parle. Et je suis arrivée dans cette maison d'édition. Et on s'est tout de suite très, très bien entendu avec Jean-Paul. Et puis j'ai découvert Paul peu de temps après. Et puis ça a démarré comme ça, quoi. C'est une sorte d'amitié aussi très forte. Et l'espèce de vitesse du succès. Moi, j'étais déjà dans le livre suivant. D'ailleurs, le deuxième livre, il ne l'a pas pris. C'est le troisième qu'il a pris. Le deuxième livre, il n'était pas assez bon pour qu'il le prenne.
Donc vous avez, voilà, il a refusé un de vos livres. Il était aussi capable de refuser, même s'il voulait toute l'œuvre.
Bien sûr. Mais moi, c'était une marque de respect qu'il me refuse ce manuscrit. Il attendait autre chose de moi. Il avait raison. Sur mes quatre premiers romans, il a eu mes cinq avec celui qu'il n'a pas publié. Donc il avait une attention vraiment page par page. Effectivement, je me rappelle d'une discussion dans Naissance des fantômes, mon deuxième roman publié, sur les parenthèses. J'adorais ces parenthèses et lui, il voulait les remplacer par des virgules. Et donc, je lisais à voix haute dans son bureau pour lui montrer qu'une parenthèse, il y a un temps de suspens légèrement plus long qu'une virgule. C'est comme des croches en musique, quoi. Et je l'avais convaincu, quoi. Il faisait toujours confiance, in fine, à l'écrivain. Mais à partir du bébé, donc à partir de ce cinquième livre, il m'a beaucoup plus laissé... Alors, on peut voir ça soit libre, soit en roue libre. Moi, j'avais un petit déficit, pas d'attention, parce que amicalement, il était formidable, mais éditorialement, j'avais un petit déficit d'attention, parce que je restais encore assez peu sûre de moi, mais c'était peut-être beaucoup lui demander. Il y avait quand même beaucoup d'écrivains.
Il m'a envoyé ultérieurement des lettres types, bien sûr, mais elles se... Elle se succédait, lettre type, là, d'argumenter. Enfin, oui. Voilà, ça dépendait, je pense, de son emploi du temps et de son intérêt pour le manuscrit.
C'est ça. Et donc, devant toi, il y a plusieurs lettres de POL, de la maison POL. J'en aperçois d'autres.
Oui.
C'est tortueux.
C'est tortueux. Il y a des encouragements. Et puis, il y a des fois des coups de massue, comme la lettre que je reçois, datée du 28 septembre 1994, qui va signer la fin de nos relations, on peut le dire, même si après il y aura d'autres échanges, mais là je prends un coup. Alors, cher monsieur, je suis vraiment navré des mauvais traitements que je vous fais subir. Nous recevons de plus en plus de manuscrits et je tiens à en lire moi-même le plus possible. Je vous prie d'accepter une nouvelle fois toutes mes excuses. Je lui dis, écoutez, cet homme est vraiment charmant, il n'arrête pas de s'excuser auprès de moi, mais rien ne se passe. Bon... Vos textes en général, je crois, et celui-ci en particulier, alors là tu vas rire Julien, me font penser au film de Jacques Doyon, ou plus précisément à ce que je ressens à la vision de certains des films de Jacques Doyon, une grande excitation immédiatement brisée par des facilités ou des négligences.
Il était vraiment peu dirigiste, et il avait tendance à considérer que... L'œuvre d'un écrivain, c'était quelque chose d'organique et qu'on pouvait pas faire rentrer dans une norme. L'identité du livre, l'ADN du livre, si on peut dire ça, il y touchait jamais. Ensuite, à l'intérieur, bien sûr qu'il aidait à faire des aménagements. Et c'était un lecteur très très attentif.
Des maladresses que je trouve très coupables, de petites complaisances parfois.
La note tenue, juste, pas juste, fausse. La note est là ou n'est pas là. La note n'est pas là, c'est fini. La note est là, Je ne sais pas. Juste, des fois c'est immédiat, des fois c'est plus long. Fausse, même chose. La vérité.
Je suis vraiment navré de ne pas vous proposer la publication de La Grande Vie.
Jérôme Lindon avait un peu ce côté figure du commandeur que n'avait pas du tout Paul. Paul était beaucoup plus drôle et beaucoup plus fluide. Et d'ailleurs, je crois qu'on était non-binaire avant qu'on parle de non-binarité, quoi. Il y avait quelque chose d'extrêmement fluide et joyeux et gai, pour dire ce mot vraiment à tous les sens du terme, de très dansant, de très festif, qui était très accueillant à... aux gens qui n'étaient pas conformes, voilà. Mmh. C'est ça qu'il adorait, Paul. Il appelait ça l'inquiétude. Il fallait rester sur une espèce de qui-vive très dynamique, très vivant, quoi. Ça, c'était merveilleux. Et c'était très érotique, justement. Mais un érotisme de la fête, de la littérature, de la poésie, de la danse. D'abord, il plaisait aux garçons, il plaisait aux hommes. Et il s'en cachait pas, enfin... Et Jean-Paul aussi, et donc tout était...
Parce qu'il y avait une hétérosexualité soft, une forme de douceur. C'était pas la masculinité à l'ancienne.
Ouais, oui, ils avaient vraiment pas ce qu'on appelle aujourd'hui la masculinité toxique, quoi. Ils étaient... c'était pas des patriarches, c'était pas des... Le fait qu'ils soient juifs tous les deux aussi, je crois, faisait qu'ils avaient pas ce côté... vieux patriarche hyper installé qui croit que tout est acquis et que tout va rouler, quoi. Enfin, Paul m'a beaucoup parlé de, et Jean-Paul, enfin, de leur histoire d'Europe centrale et des déportés de leur famille. Et c'était quelque chose de très important dans la maison. Et cette inquiétude me parlait, moi. C'était aussi une maison inquiète financièrement. Ça a toujours été une maison extrêmement fragile qui avait de temps en temps des best-sellers comme un grand coup d'oxygène, quoi. Et c'était aussi quelqu'un qui pouvait être, je l'ai vu être très grossier et violent en parole, presque physiquement, contre des agents, des gens qui cherchaient à venir nous débaucher, en particulier sur le stand du Salon du Livre. Stand du Salon du Livre où on était quand même ivre mort et à fumer clope sur clope en pleine loi Evin. Il y avait un panache de fumée au-dessus du stand POL au Salon du Livre. Ça fermait à 22h. Les vigiles, on les rendait fous, les pauvres. On était toujours là à minuit. Enfin, c'était n'importe quoi et c'était génial, quoi. Et Paul et Jean-Paul avaient un côté punk qui m'enthousiasmait. On a fait des fêtes énormes. Il y avait un sens de la fête et de la dépense, mais au sens quasiment de bataille, quoi. La dépense, parce que la vie est courte, parce qu'il faut dépenser, quoi. Tout, notre énergie, notre fric, notre amitié aussi. Enfin, voilà, il faut la vivre, voilà. Et on mettait rien dans des boîtes, quoi. Tout était toujours vivant. Et c'est pour ça, les livres étaient vivants aussi. Et il était très, très drôle quand il dansait. Je n'ai jamais vu personne danser comme ça. D'une certaine façon, il dansait tellement mal que ça devenait absolument génial, quoi. Il n'avait aucune inhibition. Et le tableau rond, là, qui représente une carte du Havre, ouais. C'était un tableau sous lequel j'ai énormément fait la fête. Il était chez Paul et Amy, rue Lallier, dans le 9e.
Amy Landon, c'était sa femme.
Et ils ont passé plus de 20 ans ensemble. Et on a beaucoup dansé sous ce tableau.
Je pense que vraiment...
Emmeline Landon.
On a donné les plus belles fêtes.
Peintre et écrivaine.
C'est des fêtes incroyables. Et aussi, donc, il y avait, comment dire, ça fonctionnait parce qu'il y avait ce côté formel avec Paul, avec ses auteurs. Marie Dreyeusek, par exemple, il se vouvoyait. Bon, Emmanuel, non. Emmanuel Carrère, non. Voilà, en plus, Paul... était parrain de son premier fils, Gabriel. Enfin, voilà, c'est un peu différent. Mais même Frédéric, il se vouvoyait. Donc, il y avait cette chose avec le vouvoiement, mais en même temps, et aussi, autre chose très importante, c'est Paul détestait si un auteur ou même n'importe qui disait du mal d'un autre. « Ah, mais alors ce livre-là, j'aime bien, mais alors ce que vous avez publié avant, j'ai pas beaucoup aimé. » Alors là, tout de suite, Paul aimait plus cette personne. Il était assez radical comme ça. Donc, c'est aussi comme ça qu'il créait cette cohésion. Les saisons passent à Paris en 2016, avant notre départ pour Lille. Printemps, été, automne, début de l'hiver.
Extrait de Marie Galante d'Emmeline Landon, publié aux éditions Gallimard.
Les saisons littéraires et leurs différents crus. 4 ou 5 nouveaux livres paraissent tous les mois, la vie au bureau. Les conversations téléphoniques dès 7h du matin avec Jean-Paul, son associé et meilleur ami, où que nous soyons. Une 30aine de manuscrits reçus par jour, la lecture partout des manuscrits. ainsi que des derniers travaux des auteurs de la maison. Et notre vie au calme. Nous passons souvent nos week-ends à mon atelier. Paul lit, je peins et écris. Nous mangeons des huîtres. Nous y restons la nuit. Nous couchons tôt pour nous réveiller comme en haut d'un grand mât au-dessus d'une barque. La perspective est étonnante, joyeuse. Nous passons les autres nuits chez nous, dans notre appartement. Nos enfants respectifs sont adultes. Les petits-enfants grandissent. À Paris, nous voyons souvent les auteurs et nos proches. Nous assistons à des lectures, des projections de films, des concerts et des pièces de théâtre. L'année est rythmée par les expositions de mes peintures, l'écriture de mon livre sur l'Australie, notamment la Tasmanie, où Paul me rejoint en janvier. Les salons du livre que fréquente Paul ont lieu à Paris en mars, à Francfort en octobre et à Montréal en novembre. Le FID, Festival de cinéma international à Marseille, en juillet.
Je pense que comme beaucoup d'entre nous, il était un peu borderline et que le fait de publier, d'éditer, d'être éditeur, le tenait sur le bon bord du borderline, quoi, sur le bord où on peut communiquer avec les autres, être efficace, tenir des histoires d'amour et d'amitié. Quand il dansait, on voyait qu'il était au bord. Voilà. Et c'est ça que je trouvais merveilleux. Voilà. Moi, c'est l'écriture qui me tient. Lui, c'était vraiment l'édition. L'édition était pour lui ce que l'écriture est pour moi.
Je pensais que je serais volontiers resté à Sablé toute ma vie. Je me serais doucement laissé aller. Ma mère adoptive m'aurait acheté un cabinet d'assurance. Je n'aurais plus rien dit. Je me serais définitivement tu. Il en est allé autrement. Et même si ce fut très long, la mémoire m'est revenue.
Il avait 13 ans et demi et n'était pas encore pubère. Il rêvait en classe, il rêvassait, il était paresseux. Il avait 13 ans et demi et ne s'était encore jamais masturbé. On lui donnait des leçons particulières qui ne servaient à rien. Il arrivait à tromper son monde, à peu près. Il souriait beaucoup, il était gentil avec tous et chacun. Cependant, les leçons particulières devenaient étranges, pénibles, de plus en plus déplaisantes. Des caresses, des baisers, des jeux, je mets mes mains dans tes poches. Il n'aimait pas ça. Mais comme on était de plus en plus pressant, il avait fini par céder et il avait été décidé d'un jour. Les volets étaient fermés. Il a d'abord enlevé très vite ses chaussures, ses chaussettes, son pull et sa chemise, son pantalon. Et puis il s'est arrêté. Après un très long moment, tout en pleurnichant, il s'est légèrement déhanché et a baissé son slip comme on le lui demandait avec insistance. Il s'est retrouvé entièrement nu. Aujourd'hui, quand il pense comme une petite pute. Exactement comme une petite pute, une petite vierge, une petite pute. Il n'arrive pas à y penser avec d'autres mots, à cause de ce déhanchement gracieux. Ensuite, il est allé sur ses genoux. Ensuite, il y a eu deux ou trois autres fois, dont une au moins sur le lit. Un jour de mauvaise note, c'était enfin l'occasion, c'était un bon prétexte. Il lui a tout dit, à elle.
Les lèvres bougent, mais on n'entend pas. Parole muette, cela ne veut rien dire. Et d'ailleurs, rien n'a jamais été dit.
Tout a été fait pour que le silence retombe. Le silence est retombé sur cette histoire. Cette histoire est une histoire qui n'a pas eu lieu.
De ce film, j'étais sorti soulagé, réconcilié, mais étonné aussi d'avoir enfin pu parler, et que ce fût avec des images plutôt qu'avec des mots, alors que j'ai construit ma vie autour des mots, avec les mots. Il est vrai qu'il s'agit des mots des autres.
Vous connaissez son histoire personnelle ?
Paul m'a raconté son histoire, donc le fait qu'il a été agressé par un pédophile qui était probablement l'amant de sa mère. Il a eu deux
adoptive.
Mères, hein, Paul, oui, de sa mère adoptive, Madame Laurence. Il me l'a raconté, je dirais peut-être 2 ans avant le film, il devait être en train de commencer à le tourner, à y penser. Il voulait m'avertir parce qu'il a fait cette chose incroyable qui lui ressemble tellement, c'est qu'il a convoqué toute la profession dans la galerie Off, si mes souvenirs
sont bons. La profession.
Les éditeurs, les libraires proches, les journalistes proches, les écrivains, pour voir le film. Et ceux qui n'étaient pas prévenus. Enfin, là, ça a été suivi d'un silence de mort.
Revenant encore une fois ici, j'ai donc compris pourquoi je faisais le métier que je fais. Pas n'importe quel métier, au vrai. Comment j'avais pu m'y investir à ce point. Pourquoi je l'aime tant. Pourquoi même apaisé, réconcilié, je continue à le pratiquer d'une manière subjective, sentimentale, jalouse, exclusive, déraisonnable.
Emeline Landon, j'avais envie d'aller voir Paul Tchaïkovski-Laurence que vous avez peint au fond de votre atelier.
Ou je peux l'appeler
ou la porter, ouais, oui, volontiers. C'est un grand format. C'est presque à taille, c'est presque à l'échelle.
Oui.
C'est impressionnant. Wow. Moi, ce que je vois, c'est un homme, un éditeur habillé en noir qui tient une liseuse.
Je l'ai commencé peut-être en 2002.
Il a
traversé tellement d'étapes. D'ailleurs, il n'est pas terminé. Je vais continuer à le faire. Derrière lui, j'ai peint donc un rayonnage de livres. Les livres POL, quand on voit juste la tranche comme ça, c'est le blanc qui ressort. Ensuite, après, on s'approche un peu, on voit qu'il y a ce papier un peu crinelé, on dit.
Crénelé, oui. Mais crénelé, c'est très
oui,
joli.
Crénelé, oui. Avec une sorte de simplicité.
Vous pouvez nous dire ce que c'est, ce logo?
Bah, c'est le jeu de Go de Pérec avec le signe de l'éternité, avec P-O-L, les lettres au-dessus, le nom de Paul. Et justement, ce qui est très important, c'est P-O-L et pas de point après le L. Ça fait comme une sorte de reflet peut-être du jeu de Go.
C'est à la page 566 de la vie mode d'emploi de Georges Pérec. 7 pastilles de marbre, 4 noires et 3 blanches, de manière à figurer la position que l'on appelle au jeu de Go le co ou éternité.
Est-ce que vous voulez bien lire peut-être la dernière page du livre ?
Triste et gai à la fois, une dernière journée sur l'île, sur cette jolie île de Marie-Galante, plus que jolie, où les touristes comme nous sont rares, nous nous efforçons de ne pas faire tâche, de respecter le quotidien de ceux qui habitent sur l'île. La nuit, nous sommes chez nous, pas très rassurés de prendre la voiture car les routes sont peu éclairées. Nous restons tranquillement au bungalow et de toute façon, c'est notre choix. En face de la Dominique, devant le ciel changeant, percé par le chant des grenouilles.
Un jour,
nous roulons vers Cap-Esquerre.
2003, 2004, je ne me souviens plus très bien, enfin c'était en 2004 probablement.
Frédéric Boyer.
Paul m'appelle et me dit « Venez boire un coup avec moi », c'était un dimanche. Après-midi, je dis très bien, moi d'abord j'adore boire des coups et j'adorais boire des coups avec lui. Et lui, j'ai quelque chose à vous dire et il me déclare s'il m'arrivait quelque chose, si je ne pouvais plus, pour une raison ou une autre, m'occuper de cette maison, j'aimerais que ce soit vous qui preniez la direction de cette maison. Voilà. J'ai eu une réaction très égoïste. Je lui dis, mais moi, je veux continuer à écrire des livres et à être publié par vous. Voilà. Je n'ai pas envie de diriger la maison qui est la mienne en tant qu'auteur, voilà. Et on en a discuté tous les deux, et puis j'ai senti que pour lui c'était très important d'avoir cette promesse-là, mais pour moi tout ça a été inimaginable en même temps, voilà. Donc il m'a dit ne me répondez pas tout de suite, prenez le temps de réfléchir, et on s'est revus quelques semaines plus tard, et je lui ai dit, je me rappelle très bien de ce que je lui ai répondu, je lui ai dit écoutez, on verra bien, s'il faut le faire, je le ferai. Voilà. Mais j'ai dit ça franchement avec un peu de lâcheté. Et en toute sincérité, pensant que ça n'arriverait jamais, effectivement.
Pourquoi, d'après vous, il avait pensé à vous ? Parce que vous étiez déjà éditeur par ailleurs dans une autre maison, vous aviez cette compétence-là, vous aviez une affinité intellectuelle, voire spirituelle avec lui ?
Hélas, c'est, C'est lui qui pourrait le dire, mais il n'est plus là. D'abord, effectivement, j'étais aussi éditeur, puisque je dirigeais la partie éditoriale, sciences humaines et religieuses du groupe Bayard. Après, il avait cette phrase, il disait « Vous, au moins, vous aimez tout ce que je publie ». Alors, et sincèrement, je ne sais pas pourquoi il disait ça. Voilà, je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur moi, mais voilà. À partir de ce moment-là, de cette date où il m'a demandé cette promesse, j'aurais pu m'attendre à ce qu'il ne m'en parle plus jamais. Et en fait, ils m'ont parlé assez régulièrement, alors au moins une fois par an. Donc c'était, je ne peux pas dire que c'était quelque chose de... un coup de tête un jour, et puis qui a été oublié. Donc, après, on n'a jamais discuté de son travail. D'abord parce que c'était quelqu'un de très... à la fois de... je ne sais pas comment dire ça, mais de... Paul avait une immense humilité qui était aussi son intelligence. Voilà, et je ne pense pas qu'il se disait qu'il fallait qu'il me transmette quelque chose. Et la seule fois où il m'a parlé un peu, c'était pour me dire, de toute façon, vous ferez ce que vous voudrez, c'est ça qui est important. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui n'était pas dans la nostalgie, c'est quelqu'un qui n'était pas dans la transmission au sens strict, c'est-à-dire au sens de conserver quelque chose. Paul était tout sauf un conservateur. C'était quelqu'un qui aimait la nouveauté, c'était quelqu'un qui aimait le jaillissement, c'était quelqu'un qui aimait la disruption. Et je crois que c'est comme ça qu'il a fondé et suivi sa maison. Alors moi, peut-être à la différence de lui, parce que je ne suis pas lui et je suis en même temps à sa place, moi je me suis imposé un devoir d'héritage. Voilà.
Nous roulons vers Capesterre, une dernière fois, une dernière baignade avant de partir tôt demain. Nous pourrons toujours nous baigner dans la piscine ce soir, et même demain matin, les fenêtres sont ouvertes, le vent est délicieux, nous sommes heureux, nous roulons tranquillement, sans nous parler. Une autre voiture arrive d'un coup en face de nous, elle heurte la nôtre de plein fouet, le plastique ne nous protège pas. Paul.
La vérité est une forme. La vérité est une note juste. Le jour, pas si ancien, le jour où j'ai compris ça, je suis entré tout entier dans mon métier et dans ma vie.
Merci à Emmanuel Carrère, Marie Darieux-Sec, Jean Frémont, Olivier Charneux, Frédéric Boyer et Emeline Landron.
Parfois j'agace les gens tellement je l'aime, en fait, cet homme-là, mais je ne l'idéalise pas, j'ai vraiment eu cette relation-là avec lui.
Extrait de Sablé sur Sarthe, Sarthe et éditeur, réalisé par Paul Tchaikovsky-Laurence. Archivina, Delphine André.
Quand même, aller chercher quelqu'un dans son bureau, par passion, j'allais dire amoureux, je l'aurais fait avec un amoureux, hein. C'est ça qui se passait, parce que je trouvais qu'il était aussi très ambigu. C'était quelqu'un de très séducteur. Ah, il attisait le feu.
Prise de son, Yves Lehors, Clément Vuillet, Régis Nicolas. Mixage, Manuel Couturier.
Attention. Il est très proche de moi et en même temps, j'ai pas énormément de choses à dire, vous voyez. J'aurais pas plus à dire si vous me demandiez de parler de mon frère, vous voyez. Oui. C'est pareil.
Attaché de production, Sylvia Favre. Coordination, Anaïs Quien.
J'étais content de parler de lui comme ça fait plaisir.
Ouais. C'était Paul Tchaikovsky-Laurence, l'éditeur idéal. Un documentaire de Julien Thève, réalisé par Marie-Laure Ciboulet.
Attention. Pourquoi les lions nous tâchent ?